Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Aujourd'hui nous partons en Colombie.
Et oui, après l'attentat, on apprend il y a quelques minutes que l'armée de libération nationale vient de reconnaître sa responsabilité dans l'attentat contre une école de police qui a tué 20 élèves policiers et blessé 68 autres à Bogota. L'ALN, ou plutôt l'ELN en espagnol, dernière guérilla en négociation avec le gouvernement, le président Iván Duque a suspendu les pourparlers de paix. C'est peut-être la fin du processus historique initié avec les FARC. On en parle avec vous, Gaspard Estrada, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. Alors pour beaucoup, les négociations de paix sont désormais enterrées. Je rappelle juste les faits. L'explosion d'une voiture piégée entrée de force dans l'école de police avec 80 kilos d'explosifs à bord et un artificier de l'ELN. Et puis là, donc je disais, on l'apprend, 3 jours pour obtenir une revendication de l'ELN. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ?
Bon, je pense que cela est propre à ce groupe armé. Moi, je pense que de manière plus générale, ce à quoi on assiste, c'est finalement à la fin de ce cycle politique de négociation entre les guérillas et le gouvernement colombien, un cycle qui s'était ouvert en 2010 lorsque Juan Manuel Santos était arrivé au pouvoir. Et là, très clairement, il n'y a plus de volonté de la part de l'actuel gouvernement du président Duque, et on le voit aussi de la part des guérillas, puisque en commettant cet acte de guerre, eh bien, il y a très clairement une volonté de mettre fin à ces processus.
Ouais. Acte de guerre, vous l'avez dit, hein, c'est ce que dit le communiqué, un acte licite dans le cadre du droit de la guerre. La guérilla dit qu'elle n'a tué que des soldats. Peut-être un mot sur cette guérilla ELN comparativement aux FARC. On dit que c'est la première guérilla colombienne fondée en 64. Elle est guévariste, un peu christique, mais on l'a dit aussi, plus petite et mieux implantée que les FARC socialement ?
Alors, elle est en effet plus petite, elle est mieux implantée, mais elle a aussi, procédé aux mêmes dérives que les FARC, puisqu'elle s'est aussi associée au crime organisé. Et donc, de ce point de vue-là, cette dérive vers le crime organisé, le narcotrafic, a suivi le même tournant que les FARC. Et c'est pour cela qu'elle est aussi critiquée telle que les FARC.
Et alors, avant qu'on entre dans le processus de négociation proprement dit, juste un mot sur l'auteur aussi de l'attentat, donc qui s'appelle José Aldemar Rojas Rodriguez. On dit que c'est un artificier important pour l'organisation, mais qu'il est aussi lié à une branche qui s'appelle le Front Domingo Lane, qui avait été créé par scission lors des premières négociations de paix il y a longtemps, en 84. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait affaire à une branche, disons, radicale de l'ELN, même s'il y a revendication du haut commandement aujourd'hui?
Bon, ce que je pense, c'est qu'il y a un problème de ligne politique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la tête de l'ELN qui est actuellement à Cuba et qui souhaiterait maintenir ce dialogue, et très clairement, il y a une autre branche de cette guérilla qui, en tant que le cycle politique des négociations est clos, ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'il y a des négociations de paix entre le gouvernement colombien et l'ELN. Malheureusement, elles se sont soldées par un échec, et je pense que cet attentat est lié justement à cette division.
Ouais. Et alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer la dégradation, on pourrait dire assez rapide quand même, de la situation, puisqu'en août 2018, quasiment 2 ans après le début des négociations, il y avait quand même de bons espoirs, un optimisme du côté du chef des négociateurs de l'ELN à Cuba, Pablo Beltrán, qui disait qu'on avait avancé sur la voie de 80% de l'accord, et puis des tensions depuis. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je pense qu'il s'est passé, l'élément central, c'est qu'il y a eu l'élection de Iván Duque à la présidence de la République. Je pense que l'ELN souhaitait, en tout cas la partie politique qui était basée à Cuba, souhaitait conclure, arriver à un accord. Et c'est pour cela qu'il y avait ce genre de déclaration. Et très clairement, à la suite de l'élection d'Iván Duque, cet accord de paix était pour le moins compromis. Et là, on a l'exemple avec cet attentat Que ces négociations sont plus que compromises aujourd'hui.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des signes de la part du gouvernement et d'Ivan Duque qu'effectivement ils allaient durcir le ton? Il y a eu des propos assez durs hein, contre le chef de la guérilla ELN quand on a su qu'il était à Cuba. Ivan Duque a demandé son arrestation. L'ELN avait parlé de mesures inamicales. Ça veut dire, lui qui avait promis de ne pas rompre le processus de paix, ça veut dire qu'il a créé trop de pression sur le LN?
Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le processus de paix avec le LN a commencé bien plus tard que le processus de paix avec les FARC, plus de 7 ans plus tard. Et donc, de ce point de vue-là, les conditions politiques pour que ce dialogue arrive à un terme étaient beaucoup plus compliquées, puisque M. Santos, qui était donc le président à l'époque, était dans une position politique bien plus fragile. C'était après la victoire du non au référendum par rapport au processus de paix avec les FARC en fin 2016. Et donc, de ce point de vue-là, il y a eu une course contre la montre de la part du gouvernement Santos et de l'ELN pour arriver à un accord. Et il me semble que cette séquence-là est désormais terminée.
Oui, et alors encore une fois, qu'est-ce qui a fragilisé ces négociations? Est-ce que c'est seulement Duque, ses déclarations, sa réputation, puisqu'il vient du Centre démocratique, qui est en fait la droite dure, hein, uribiste, ou alors ses déclarations parce qu'il voulait des corrections à l'accord des FARC d'une part, et qui posait des conditions importantes pour négocier avec le LN, notamment la libération des otages préalables, 17 apparemment?
Oui, très clairement, Monsieur Duque a musclé le ton, a durci ses positions. Cela étant dit, je pense que à partir du moment où il était élu sur une plateforme qui justement visait à rompre avec ses initiatives de Monsieur Santos, même si il essayait de d'être assez équilibré dans ses propos lors de sa campagne électorale. Très clairement, il voulait rompre avec l'héritage de Santos, et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il aurait été très difficile qu'il y ait une résolution de cet accord de manière positive sous un gouvernement Duque.
Oui, avec des déclarations, vous voulez dire, peut-être plus consensuelles que les actes mêmes.
Exactement.
Et quand même, c'est vrai que le gouvernement a, de manière répétée, quand même, accusé le LN ces derniers temps de remettre la pression, si je puis le dire ainsi, notamment le 4 janvier, où elle l'accusait d'avoir rompu la trêve qu'elle décrète traditionnellement. Et puis là, on voit que le ministre de la Défense, Guillermo Botero, parle d'une attaque planifiée depuis plus de 10 mois. Ça veut dire que le LN est en campagne, clairement, désormais?
Ah, très clairement. D'ailleurs, le gouvernement colombien a annoncé hier le fait qu'il avait déjoué un autre attentat terroriste dans une zone frontalière avec le Venezuela. Il y a eu un oléoduc qui a été saboté tout récemment également en Colombie. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'ELN est manifestement passé à autre chose.
Et qu'est-ce qui pourrait ramener l'ELN à la table ou infléchir la position du gouvernement colombien, notamment ce gouvernement qui a évincé le Venezuela comme garant des négociations? Là, on voit que Cuba insiste notamment sur les protocoles de paix qui réclament un pays médiateur. Ça peut être une solution dans cette situation?
Alors, dans l'immédiat, oui, puisque la position cubaine est compliquée, compte tenu justement de son statut de pays garant. Or, une des parties, plutôt deux, aujourd'hui ne veulent plus de ces accords de paix, donc cela pose le gouvernement cubain dans une situation difficile. Néanmoins, aujourd'hui, je vois mal, compte tenu de la dynamique politique des événements, de la volonté très claire du gouvernement colombien de mettre fin à cet accord, comment on pourra rétablir, renouer le fil du dialogue.
Ça veut dire que pour les prochains mois, voire les prochaines années, la Colombie va retourner dans ce conflit qui a déjà fait 260 000 morts, selon vous, un risque de conflit plus fort. On voit d'ailleurs une résurgence des paramilitaires, des meurtres de militants des droits de l'homme, que ce soit liés à l'ELN ou pas, hein, finalement.
ça c'est, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Depuis l'élection de Iván Duque, il y a une augmentation très nette des assassinats de syndicalistes, de militants des droits de l'homme, d'activistes politiques. Cela étant dit, la situation sécuritaire de la Colombie aujourd'hui par rapport à ce qui existait il y a 10 ou 15 ans est très différente. Aujourd'hui, l'État colombien a véritablement le contrôle du territoire et donc de ce point de vue-là, je pense que les conditions militaires sont très différentes.
Eh bien, écoutez, c'est dit et merci pour vos explications aujourd'hui. Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'OPALC.